Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Et à la une de votre revue de presse française, une présidentielle inédite en Biélorussie.
Oui, l'élection ce sera demain, dimanche, et pour le monde, il est clair que le président Alexandre Loukachenko devrait l'emporter, mais la vigueur de l'opposition a montré ses failles, peut-on lire. Le monde y voit l'usure d'un régime autoritaire. Loukachenko défié par le réveil de l'opposition, titre ici le Figaro. Quand Libération affiche pour sa part les trois flammes de la démocratie pour présenter celles qui font bouger les lignes. Il y a d'abord, toujours au centre, nous dit Libé, Svetlana Tsiranovskaya, la candidate officielle, jeune mère au foyer, ancienne traductrice et femme d'un blogueur très populaire dont la campagne présidentielle s'est achevée avec son arrestation en mai. Elle a alors, poursuit Libé, mis leurs deux enfants à l'abri et repris le flambeau. À ses côtés, il y a également Veronika Tsapkala, que le quotidien présente comme une cadre chez Microsoft, dont le mari, longtemps proche du président, s'est porté candidat avant d'être contraint à l'exil. Et puis il y a enfin Maria Kolesnikova, la plus libérale, pro-européenne et féministe du trio, écrit Libération, et la plus expérimentée aussi, car elle a dirigé la campagne d'un célèbre banquier emprisonné au mois de juin.
Un trio de femmes donc, et c'est rare face à un président au pouvoir depuis 26 ans.
Oui, depuis 1994, mais un président élu à chaque fois à l'issue de scrutins frauduleux avec des scores à la soviétique, explique Libération. Et ces récentes accusations selon lesquelles le grand frère russe serait intervenu pour stabiliser cette présidentielle via la compagnie Wagner semblent ne tromper personne. Le Monde explique qu'entre Moscou et Minsk, il s'agit d'une relation complexe, d'intérêts mutuels et que Vladimir Poutine souhaite le maintien au pouvoir d'Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, soupçonné ici de vouloir regonfler sa popularité en cherchant un ennemi pour se montrer en père de la nation. Dans les colonnes du Figaro, Anna Colin-Liebedev, spécialiste des pays post-soviétiques, rappelle d'ailleurs que souffler le chaud et le froid avec Moscou, c'est une stratégie permanente pour Minsk. Dans ce contexte, le Monde estime qu'un seul vrai doute réside autour de cette présidentielle, à savoir si Alexandre Loukachenko s'octroiera, comme de coutume, 80% des suffrages ou s'il sera cette fois plus modeste. En tout cas, prévient encore l'article, à ceux qui oseraient remettre en cause son sixième triomphe et imagineraient un grand soir biélorusse, l'autocrate a déjà fait sentir l'odeur de la poudre. Il a notamment évoqué l'exemple de la répression ouzbek qui avait fait des centaines de morts en 2005, rappelle Le Monde. Et depuis le début de cette campagne biélorusse, au printemps, plus de 1300 personnes ont déjà été arrêtées.
Sébastien, les journaux français reviennent également ce matin sur la situation au Liban.
En une, Le Monde rappelle la visite jeudi d'Emmanuel Macron, le président français qui appelle les Libanais à forger un nouveau pacte politique ainsi qu'à lutter contre la corruption et Libération d'apporter la réponse après les critiques, la réplique, écrit le quotidien. Assaillis pour leur responsabilité dans la double explosion dévastatrice qui a fait au moins 153 morts mardi sur le port de Beyrouth. Les principaux dirigeants libanais ont tenté hier de reprendre la main pour se défendre jusqu'à brouiller les pistes. Libération voit un président, Michel Aoun, soucieux de réaffirmer la souveraineté de son pays. Si les Libanais ne se gouvernent pas eux-mêmes, personne d'autre ne pourra le faire, a-t-il notamment déclaré dans une allocution officielle. Et au cours d'une discussion plus informelle avec des journalistes, une discussion rapportée par Libé, Michel Aoun a même évoqué la possibilité d'une attaque extérieure et réclamé à Paris des images satellites de la scène de l'explosion.
Autre actualité dans la presse française, Salzbourg qui redonne de l'espoir à la culture.
Le festival de Salzbourg brave l'épidémie pour célébrer son centenaire, affiche le Figaro en une. Rare rescapé de l'été, monté en 2 mois seulement, il s'agit de la plus grande manifestation de musique classique et de théâtre au monde, rappelle le journal. Débutée le 1er août, elle se déroule en Autriche jusqu'à la fin du mois, mais avec moins de spectacles, une jauge réduite et des règles sanitaires strictes. La rigueur de son protocole pourrait servir d'exemple, écrit le Figaro. Et dans ses colonnes, le directeur du festival, Markus Hinterhauser, explique d'ailleurs que cette édition se veut surtout comme un signal adressé au monde de la culture.
Et puis du football, bienvenue au sommet.
Oui, bienvenue au sommet, c'est la une de L'Équipe ce matin. Lyon s'invite à la table des grands titres de son côté, le Parisien aujourd'hui en France. Les deux journaux parlent ce matin d'un exploit, car l'Olympique Lyonnais est le premier club français à éliminer la Juventus Turin en Ligue des Champions. Malgré sa défaite hier soir 2-1 sur la pelouse de la Juve, la victoire 1-0 à l'aller suffit à se qualifier. L'OL rejoint ainsi le PSG et participera au final 8 de Lisbonne en affrontant Manchester City samedi prochain. L'Équipe résume plutôt bien la joie lyonnaise, Jeanne. Il a fallu résister à beaucoup de choses. Le crépuscule d'ogre de Ronaldo, un avenir européen bouché, 5 mois traversés d'un seul match de compétition avant de s'avancer vers le bonheur.
Ne nous emballons pas trop vite. C'était Sébastien Duhamel.